Le camp de Noronfont, situé aux abords de l'A26 dans le Bruésie et qui accueillait une quarantaine de migrants, a été démantelé sur l'ordre du sous-préfet de Béthune lundi 30 janvier vers 8h30 du mat. Petit rappel des faits, l'injonction de ce démantèlement avait déjà été ordonnée auprès du maire de Noronfont fin 2010 par un arrêté préfectoral d'insalubrité. Il s'y était alors formellement opposé. Nan Suel, bénévole et membre actif de l'association Terre d'Errance, nous éclaire pour mieux comprendre la situation et le devenir de ces migrants. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la situation du camp de Noronfont ? Depuis combien de temps il existe et par qui il est fréquenté ?
Alors, il est fréquenté par des étrangers comme ça de passage qui essaient d'aller vers l'Angleterre. Et qui passe à Noronfont depuis une dizaine d'années maintenant. Ça a correspondu à peu près à quelques mois avant la fermeture du camp de Sangatte, au fait. Et donc, des gens, des habitants, des citoyens leur sont venus en aide, d'abord en leur apportant de l'eau, de la nourriture, des couvertures, de quoi se protéger du froid, de la pluie aussi, donc des bâches, des palettes, etc. Et puis, peu à peu, ces habitants se sont formés en collectif, puis en association, en fait, suite à la destruction du camp en décembre, c'était le 20 ou 21, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2007.
De quelle nationalité sont ces migrants essentiellement ?
Alors, à Noronfont, ils sont principalement érythréens. Il y a aussi quelques Éthiopiens et puis des Soudanais aussi depuis quelques mois.
Est-ce que c'est une société privée qui est intervenue pour se charger de la démolition et éventuellement, est-ce que vous savez combien ça coûte ?
Oui, c'est une société privée qui s'est chargée de la démolition. Combien ça coûte là, on ne sait pas. Mais on sait combien a coûté la précédente démolition parce que là, au fait, il s'agissait d'un terrain privé. Donc, pour information, en fait, le propriétaire a été informé du coût de la démolition qui a eu lieu sur son terrain. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Alors, la démolition avait coûté 6 000 euros, mais ça, c'était uniquement pour les locations et utilisation du matériel, c'est-à-dire des grues, les bennes pour amener à la déchetterie, etc. C'était pas du tout, sans prendre en compte le salaire, tous les nombres d'agents, les agents de police qui sont là, les véhicules de la police, etc. Bon, on imagine assez aisément que ce ne sera pas moins. On ne sait pas combien, ça s'élèvera. Et on espère quand même que l'État n'aura pas, que le préfet n'aura pas l'audace, pour le coup, d'envoyer cette facture à la mairie de Noronfont. En quel cas, on se mobilisera de toutes les façons. On laissera évidemment pas les habitants de Noronfont payer ça. Mais ce serait quand même très très fort, quoi, parce que là, nous, on est prêts à nous aussi envoyer la facture. Nous, en tant que bénévoles, on fait tout ce que l'État ne fait pas. On donne des douches, on fait de l'information sur l'asile, parce que la cohésion sociale est venue seulement 3 fois cette année. Avant, elle n'était jamais venue. Et donc, à chaque fois, c'est resté une demi-heure pour dire le discours, dire bon, je vois que personne ne bouge et puis partir. Hein. Donc, nous, on fait de la formation vraiment sur l'asile, sur comment ça se passe, sur le fait qu'ils peuvent demander l'asile et que, enfin, voilà. On fait du suivi aussi, serait-ce que pour la santé, l'hygiène. On donne des habits, on donne de la nourriture, et donc tout ça, ça a un coût qu'on est tout à fait prêt à facturer.
Est-ce que vous étiez présente lors de la démolition du camp et pourriez-vous nous raconter éventuellement ce qui s'est passé ?
Alors, non, je n'étais pas présente parce que je n'ai pas pu m'approcher. Personne n'a pu s'approcher du camp. La rue était bloquée à 500 mètres facilement avant et après, enfin des deux côtés, quoi. La rue qui mène au camp, donc personne n'a pu s'approcher du camp à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'histoire remonte à un an. Il y a un an, donc, après que les associations soient mobilisées pour faire pression sur l'État pour qu'il remplisse ses obligations d'hébergement en cas de plan grand froid, l'État a octroyé 100 000 euros à la ville de Calais pour héberger les migrants uniquement en cas de plan grand froid. Et au fait, donc, le conseil municipal de Noronfont, qui lui héberge les migrants chaque année, chaque hiver, depuis 4 ans maintenant, le conseil municipal de Noronfont a fait une demande de subvention à l'État. Cette outrecuidance, ils ont osé faire ça, et donc ça a mis le préfet en colère, ou ça l'a vexé, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Il a un sacré drôle de caractère, et du coup, sa réponse, au fait, a simplement été de... Alors, c'était une lettre qui datait du 24 décembre 2010, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, et au fait, sa réponse a été une mise en demeure du maire donc de Noranfonte pour qu'il détruise le camp. Il ne s'agissait même pas de dire oui, on vous donne de l'argent ou non, on ne vous donne pas d'argent. C'était, puisque c'est comme ça, on vous demande de détruire le camp. Le maire de Noranfonte a dit non, a refusé, simplement parce que déjà ça ne se faisait pas dans les formes, et puis surtout parce que l'État veut faire ou détruit lui-même les camps, mais ne prend pas du tout en charge derrière et ne s'occupe absolument pas des gens qui s'abritent dans ces camps-là. Et donc le maire a dit ben non, parce que c'est le seul hébergement, c'est le seul abri qui existe pour eux sur le long de l'année, donc non, ce camp ne sera pas détruit. Du coup, au fait, le préfet a fait les choses dans les règles, et donc il y a l'agence régionale de santé qui est venue à plusieurs reprises sur le camp, d'abord pour constater que le camp était insalubre, ce avec quoi absolument tout le monde est d'accord. Puis ensuite, donc, suite à ce rapport de l'ARS, le préfet a fait un arrêté pour demander officiellement, donc avec un arrêté, etc., tampon, au maire de détruire ce camp. Le maire a continué à dire mais non, je ne le détruirai pas tant que parce que c'est absurde, simplement c'est absurde et inhumain. Et au fait, la destruction qui a eu lieu ce lundi, c'est à la suite de ça. Donc l'ARS est venue constater que le camp n'était pas détruit, que le maire n'avait pas rempli ses obligations, etc. Et donc voilà, le préfet est venu. C'était pas vraiment une surprise parce qu'on... Enfin, quoique on se disait que peut-être avec les élections qui arrivaient, il allait peut-être pas le faire, mais bon, on n'était pas vraiment surpris. Voilà, la seule surprise, c'est la date, quoi.
Ben oui, parce qu'en plus, on est en période de grand froid, donc est-ce que vous pensez que c'est vraiment un ultimatum de la part de la sous-préfecture de démanteler ce camp à ce moment de l'hiver ?
Ben, au fait, il a pu le faire parce que c'était la période de grand froid, uniquement parce que les migrants sont à nouveau, hein, donc pour la quatrième année, hébergés par la commune de Noranfonte dans une salle donc municipale. Et c'est uniquement parce que les migrants n'étaient pas là qu'ils ont pu le faire. Bon, après, ceci dit, d'autres camps sont détruits, y compris pendant les périodes de plan grand froid à Calais. Mais là, sur Calais, les Natacha Bouchard, qui est la maire donc, de Calais, plutôt favorable à ça, aux destructions et au harcèlement des migrants. Là, ce qui se passait, c'est vraiment quelque chose de politique. Et puis, c'est une histoire de vexation, quoi. Enfin, le préfet n'a pas supporté qu'on ose lui demander de l'argent. Alors qu'il s'agissait simplement du principe d'égalité entre les communes. Voilà, le camp est détruit. Les migrants sont dans la salle. À un moment donné, ils vont devoir quitter cette salle.
Les instances préfectorales, justement, ont-ils proposé une autre alternative pour les loger ?
Oui et non. Alors, officiellement, oui. Ils se sont couverts à ce niveau-là. Quand on regarde en réalité ce qui s'est passé, non, pas du tout. C'est-à-dire que, alors que la destruction avait lieu sur la jungle, dans le camp, il y a des agents de des DCS, c'est la direction départementale de la cohésion sociale, au fait, qui sont venus, qui ont débarqué au milieu du dortoir où sont les migrants, enfin dans la salle où sont les migrants actuellement. Donc ils sont restés une grosse demi-heure à tout casser. Il y avait deux traducteurs et donc ils ont dit, ils ont dit au groupe, c'était pas du tout des entretiens individuels pour voir le cas de chaque personne, etc. Ils ont dit, écoutez, vous n'avez pas le droit d'être là. Nous, ce qu'on vous propose, nous, État français, ce qu'on vous propose, c'est de retourner dans votre pays, en sachant qu'ils viennent d'Érythrée, d'Éthiopie, du Soudan, qui sont des pays où tout va bien, que tout le monde le sait, hein. Et donc de retourner dans votre pays que vous avez fui pour la guerre, mais c'est pas grave, on vous propose quand même d'y retourner, ou alors on vous propose de demander l'asile ici, en sachant qu'au fait, il y a un règlement qui s'appelle le règlement Dublin 2, qui stipule que tout demandeur d'asile dans l'espace Schengen doit demander l'asile dans le premier pays où il est rentré. Pour les migrants, il s'agit très souvent de la Grèce ou de l'Italie. Donc au fait, s'il demande l'asile ici en France, il sera très facile pour l'État français de dire « Ah ben non, je suis désolé, tes empreintes sont connues en Italie, donc hop, on te réexpédie, on t'expulse en Italie, et c'est là que tu es censé vivre, en sachant que la Ligue du Nord, le parti raciste en Italie fait partie du gouvernement et qu'il y a très très peu d'aide, enfin très très peu de prise en charge, encore moins qu'en France, en Italie. Voilà pourquoi les migrants ne restent pas en Italie.
Il y a quand même des centres d'hébergement qui existent en France qui pourraient éventuellement les loger, ces migrants. Est-ce qu'il n'est pas possible pour eux de s'y rendre ?
On leur a aussi proposé des places en centres d'hébergement alors un peu partout en France, et puis là c'était en centre d'hébergement d'urgence aussi. Ce que les migrants nous ont répondu, et ce qu'ils ont osé leur dire aussi, c'était mais pourquoi vous nous proposez ça à nous ? À nous qui voulons aller en Grande-Bretagne. Alors que nous, on connaît des demandeurs d'asile, on a des amis qui sont demandeurs d'asile en France et qui sont actuellement à la rue. Donc, ils ont refusé. Mais ça leur sert à rien d'aller en Meurthe-et-Moselle, alors qu'eux veulent aller en Grande-Bretagne. Pour eux, ils ont perçu aussi le paradoxe qui était là, quoi. Alors, pour l'hébergement des demandeurs d'asile, il y a des CADA, ce qu'on appelle les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont bien trop peu nombreux par rapport... il y a bien trop peu de place dans les CADA par rapport aux demandeurs d'asile, en fait, au nombre de demandeurs d'asile. Ensuite de ça, souvent, ce qu'on peut leur proposer, c'est des places en hébergement d'urgence. Et donc là, ils tombent dans le droit commun, en fait. Souvent, ils souffrent de racisme dans ces centres d'accueil, d'hébergement d'urgence. Et puis, en plus de ça, surtout, les éducateurs qui y travaillent ne sont absolument pas prêts et pas formés à recevoir des demandeurs d'asile, au fait. Nous, parfois, il nous arrive, nous, d'avoir des appels. Les CHRS, donc les centres d'hébergement d'urgence proches de chez nous, ils connaissent l'existence de notre association et ils nous appellent alors pour des traductions ou alors pour comprendre de quel pays et dans quelles conditions a voyagé telle personne qui se trouve devant eux. Donc les migrants sentent bien que pour eux c'est difficile au fait dans les CHRS. Et en plus là, les migrants qui sont encore une fois, je le répète, mais qui sont dans la salle, sont pas du tout intéressés par un hébergement en centre d'accueil d'urgence. Eux, ils veulent aller en Angleterre.
Qu'est-ce qu'on peut envisager pour le futur ? Et en même temps, est-ce que l'association En Terre d'Errance va se mobiliser à nouveau ? Et est-ce qu'il y a des prochaines manifestations ou opérations qui pourraient éventuellement donner la chance à d'autres personnes de venir vous rejoindre et de vous soutenir ?
Les migrants sont donc actuellement hébergés par la commune, qui n'a pas les moyens. Évidemment, c'est une toute petite commune de les héberger à longueur d'année. Donc, une fois que les gelées ne seront plus à craindre, les migrants devront quitter la salle. Habituellement, ils rejoignaient la jungle, le campement, qui a été rasé. Alors, nous, évidemment, on va les aider à reconstruire un campement. C'est une évidence pour nous, bénévoles, parce que, simplement, en quittant la salle, ils vont rester là. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'aire de passage, l'aire d'autoroute sur la 26, qui mène à Calais. Donc, eux, spontanément, ils vont se reconstruire des abris de fortune ou d'infortune, plutôt, proche de cette aire d'autoroute. Donc, évidemment, nous, on va les aider à améliorer ces abris d'infortune. Évidemment, on va acheter des bâches. Évidemment, on va amener des madriers. Et on va faire ça avec eux, avec les autres associations aussi qui nous soutiennent. Et puis, dans le futur, pour l'instant, c'est un peu le statu quo. On attend de voir ce qui va se passer, de voir si la mairie de Noirmoutier ne va pas recevoir la facture. Ce serait quand même un peu fort. Je pense qu'on va appeler quand même à une assez grosse mobilisation parce que nous, nos petits bras sont un peu fatigués et travaillent à longueur de semaine pour amener les migrants aux douches, pour les amener à l'hôpital, pour trier les habits qui leur sont donnés, pour leur amener de la nourriture, etc. Donc je pense qu'on va faire un appel fin février, début mars sans doute, pour que d'autres que nous puissent les aider à reconstruire. Ouais.
C'était Nansuel, bénévole de l'association Terre d'Errance, qui nous parlait de la situation des migrants de Noronfonte, dont le camp situé sur l'A26, pas loin de Bruay-la-Buissière, a été à nouveau démantelé sur l'ordre de la sous-préfecture de Béthune. Si vous désirez en savoir plus sur l'association ou tout simplement leur apporter votre aide ou votre soutien, rendez-vous sur le www.terrederrance.wordpress.com. Thank you.